RFI, grand reportage, Patrick Adam.
Bonjour et merci d'être avec nous. C'était il y a 30 ans, le génocide des Tutsis au Rwanda. Dans ce numéro exceptionnel du supplément au grand reportage ce dimanche, je vous propose d'entendre le Rwanda d'aujourd'hui, qui vit, survit parfois, à l'ombre de son passé. Mais ce matin, nous n'allons pas à nouveau nous attarder sur les faits d'il y a 30 ans. Les Rwandais que vous allez entendre ne nous racontent pas les horreurs du passé, mais les difficultés du présent. Avec nous, Lucie Mouillot, correspondante de RFI à Kigali. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes au Rwanda depuis un an et demi maintenant. Et Amélie Tullet, journaliste au service Afrique de RFI, de retour du Rwanda. Bonjour Amélie.
Bonjour Patrick.
Lucie, Amélie, vous avez fait le choix d'écrire à quatre mains les reportages que nous allons écouter. On prendra le temps d'en parler. Au Rwanda, on le sait, 100 jours de commémoration officielle ont donc commencé dimanche dernier, le 7 avril. Lucie, vous qui êtes sur place, en quelques mots, que va-t-il se passer pendant les semaines qui viennent ?
Alors, il va y avoir encore beaucoup de cérémonies à plus petite échelle que celle du 7 avril. On organise par exemple des activités de commémoration aux dates anniversaires des massacres de masse dans tous les villages dans lesquels ils se sont produits et dans les mémoriaux du pays. Il y a aussi d'autres rendez-vous par des associations, par des groupes religieux, des messes en hommage aux victimes, des ateliers et groupes de parole entre familles de rescapés, d'anciens génocidaires, des débats entre les générations qui ont connu le génocide et celles qui sont nées après. Mais aussi, si une fosse commune a été retrouvée au cours de l'année, c'est à cette période que les corps sont réenterrés dignement dans les mémoriaux des différents villages.
Alors je le disais, pour ces 30 ans, deux grands reportages écrits à quatre mains. Amélie, pourquoi ce choix de mêler vos écritures ? Comment est-ce que vous avez travaillé ?
Alors, on devait préparer pour l'antenne, en amont des commémorations, une série de reportages courts. Et donc, avec Lucie, on a réfléchi ensemble, bien avant, aux différents thèmes qu'on voulait aborder pour donner à entendre à quoi ressemble la société rwandaise 30 ans après le génocide. On s'est donc réparti les coups de fil à passer, les rendez-vous à prendre avec les différentes associations sur le terrain. Et on a fait ça en fonction de nos disponibilités, de la position géographique des différents sites où il fallait se rendre. Donc Lucie est allée plutôt dans le nord et l'ouest du Rwanda. Et puis moi, je suis allée dans deux districts qui se trouvent dans le sud du pays. Et comme tout au long de cette préparation, ça a été une réflexion commune, pendant les reportages aussi, on a beaucoup échangé avec Lucie sur quelles questions aborder, comment les poser, comment se positionner aussi par rapport au sujet et aux interlocuteurs et interlocutrices. Ça nous a semblé logique de construire donc une trame commune et puis d'avoir une unité de ton entre ces deux grands reportages.
Et donc vous avez travaillé autour de deux axes principaux.
Voilà, donc on s'est posé la question de l'intime, de la santé mentale des Rwandais, dont la majorité est né après le génocide de 1994, et on a souhaité travailler aussi sur la thématique de la réconciliation et donc de la justice.
Lucie, Amélie, ce que je vous propose, c'est que l'on se retrouve dans une vingtaine de minutes. Vous continuerez à nous raconter vos reportages. On écoute le premier volet sur l'intime et la santé mentale, donc son titre, Rwanda, 30 ans après le génocide, penser les blessures invisibles.
Nous sommes en train de trier les vêtements des personnes qui ont été tuées ici, au mémorial. Nous les trions selon la cause du décès, par machette ou par balle. Et le tri se fait également selon leur âge et leur sexe. Je vois qu'il y a même des enfants parmi les victimes. Et les vêtements ont d'énormes taches de sang. Ça fait très peur.
Dans le tout nouveau mémorial de Musanze, dans le nord du Rwanda, Mireille Ngabire, 20 ans, sort de grands sacs en toile un tas de vêtements poussiéreux. Des habits retrouvés avec plus de 800 victimes du génocide dans l'ancienne cour d'appel de la ville. Comme elle, plusieurs dizaines d'étudiants consacrent leur matinée à ces préparatifs avant les commémorations.
Je vois ainsi moi-même l'horreur à travers ces vêtements de victimes du génocide. Voir qu'il y a des jeunes qui avaient mon âge, des adultes, des enfants qui ont péri pendant cette tragédie. Mais ça m'encourage à faire tout ce que je peux pour empêcher que mon pays ne sombre à nouveau dans un tel malheur.
«
Derrière les bâtiments, plusieurs groupes de jeunes aménagent les jardins. Steven Giza, 23 ans, vient de Kigali, d'une famille de rescapés.
Le génocide a emporté beaucoup de membres de ma famille. Je n'ai ni tante, ni oncle, ni grands-parents. Quand les jeunes de mon âge partent en vacances chez leur tante ou leurs grands-parents, je me demande pourquoi moi je ne peux pas. Mais c'est l'histoire qui a fait que je me retrouve dans cette situation. Il faut l'accepter, c'est comme ça. Quand on parle, mon père nous partage beaucoup d'histoires sur la guerre de libération du pays. Mais maman nous explique très peu ce qu'elle a vécu. Parfois, elle ne veut pas aborder certaines parties de son expérience. Elle nous raconte comment elle a fait pour survivre, mais elle évite de parler des moments trop douloureux qu'elle a vécu. Elle n'aime pas partager cela.
Dans le jardin de sa maison familiale à Mushubati, sur les hauteurs du lac Kivu, dans l'ouest du Rwanda, la psychothérapeute Emilienne Mukansoro fête avec plusieurs dizaines de participants la fin d'une série d'ateliers de parole intergénérationnels.
Les enfants du groupe nous ont dit, nous avons entendu ce qui s'est passé par les trous des fenêtres, par la porte, parce qu'on voulait savoir, mais on n'a jamais eu des discussions, des vraies discussions avec nos parents sur ce qui s'est passé. Le silence n'empêche pas la transmission et le silence n'empêche pas que les jeunes encaissent ou voilà, absorbent des choses. Les jeunes de ce pays vivent comme s'ils n'ont pas de lien avec l'histoire du pays, avec l'histoire de leur famille. Pas parce qu'ils ne ressentent pas des choses, mais ils se battent plus pour s'éloigner de cette histoire, alors que c'est vraiment impossible. Les enfants ont eu ce malheur d'hériter la souffrance de leurs parents, mais aussi de vivre dans cette souffrance. Les enfants, les jeunes ont besoin de poser des questions, et les aînés ont besoin, ils ont le devoir de répondre aux jeunes, de ne pas les laisser dans quelque chose d'abstrait. Et je me dis que c'est là où les jeunes tireront la force pour continuer leur vie.
Nitwa Léoncia Nira Safari, mfite imyaka 65.
Je m'appelle Léoncie Safari, j'ai 65 ans. Avec mon mari, nous avons 7 enfants, une fille et 6 garçons. Et je suis la grand-mère de 5 petits-enfants. On n'a pas réussi à dire la vérité à nos enfants. Mais après les ateliers, personne n'a pu s'endormir avant de discuter avec ses enfants, son mari, son épouse. Et c'est là où nos enfants nous ont posé des questions et nous ont demandé pourquoi nous n'avions pas parlé de ça avant. Maintenant, on attend les vacances pour que les plus jeunes reviennent et pour leur avouer qu'on les a fait souffrir, que nous ne leur avons pas dit la vérité, qu'on a échoué et qu'on leur demande pardon.
Je ne sais pas la vie. Et voilà, c'est...
Chez moi, mes proches ont été tués pendant le génocide. Chez leur père, ils ont commis le génocide. Leurs oncles sont en prison à cause du génocide. Il y en a un qui est mort en prison. Il y en a qui se sont enfuis et qui ne sont jamais revenus. Un des oncles a été libéré et c'est maintenant notre voisin. Je raconte un peu à mes enfants, mais de façon à ne pas créer de conflit avec la famille de leur père. Je leur dis juste que même s'ils ont fait du mal, ça reste leur famille.
Une enquête de 2018 révèle qu'au moins un Rwandais sur cinq souffre d'un problème de santé mentale. Parmi les survivants du génocide, un quart souffre de syndrome de stress post-traumatique, un tiers connaît des symptômes dépressifs. Dans le sud du Rwanda, à Huye, le centre Isange est dédié à la prévention et au traitement des addictions. Alcool, drogues en tout genre, jeux d'argent. Avec son équipe, le psychologue Patrick Rwagatare travaille sur le devenir du traumatisme pour des patients qui étaient de jeunes enfants pendant le génocide.
On s'est rendu compte qu'il y avait un nombre assez important de jeunes adultes et le dénominateur commun, ils ont vécu le génocide quand ils étaient jeunes, très jeunes. Des enfants qui avaient 0 à 3, 4, 5. Donc, on a mis en place un groupe de parole pour permettre de mettre un peu de mots sur leurs souvenirs qui parfois étaient, qu'ils n'arrivaient pas à ramener dans la conscience. Je me rappelle un jeune homme, il se rappelait d'une scène, il était dans le dos de sa mère. Sa mère, qui avait probablement senti qu'on allait la tuer, elle a enlevé son petit garçon de 3 ans dans le dos et elle l'a laissé partir. Parce qu'un enfant de 3 ans, on ne sait pas s'il est tout petit. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a continué à errer. Il n'a pas su ce qui s'est passé à sa mère. Je crois que ça, c'est un exemple que je voudrais donner pour un peu faire le lien entre le traumatisme vécu quand on est enfant et plus tard cet comportement addictif parfois qui peut dérouter les cliniciens.
Parmi les patients accueillis par le centre, cet homme de 36 ans, il en avait 6 en 1994. Il a dû fuir à l'époque jusqu'au Burundi avec sa grande sœur quand leurs parents ont été tués.
Après le génocide, je me suis retrouvé sans parents, sans famille, mais il fallait bien vivre, il fallait survivre. Quand je voyais une bouteille d'alcool, je buvais parce que ça m'aidait à me sentir plus calme, à ne plus penser, à oublier.
À ses côtés, un autre patient, très amaigri, qui tente de se sevrer de l'héroïne. Il avait 5 mois seulement quand le génocide a commencé. Orphelin et trop jeune pour avoir le moindre souvenir conscient de cette époque.
Je me droguais parce que j'étais seul après des années à l'orphelinat. La famille qui me restait ne m'a pas prise en charge. Sans drogue, je n'arrivais pas à dormir. C'est seulement quand je prenais de la drogue que je trouvais le sommeil et un peu de paix.
Il y a aussi les enfants qui n'étaient pas menacés en 1994, mais qui ont vu leurs proches commettre le génocide et qui sont aujourd'hui de jeunes adultes. Même s'ils ne se présentent pas dans son centre, le psychologue Patrick Rwagatare s'interroge sur leur part de souffrance.
Je me demande pour les personnes qui ont vu leurs parents, leurs frères, leurs oncles se rendre responsables de ces actes ignobles, de ces cruautés. Comment ils ont grandi? Qu'est-ce qu'on peut leur dire entre le bien et le mal? C'est pour cela peut-être qu'on n'en reçoit pas et que peut-être on a cette recrudescence des comportements addictifs à l'une ou l'autre substance. Parce qu'on ne sait pas dire, mais on a ce conflit psychique qui est en vous. On se dit, j'ai assisté à ça de la part d'une personne que j'aime bien. Ou même le fait qu'on appartient à la même famille, au même groupe et tout ça, il y a des culpabilités qui peuvent émerger à tout ça. Et je me dis que c'est quelque chose qui n'est pas assez facile.
La période de commémoration du génocide réactive des souvenirs douloureux. Les soignants enregistrent chaque année entre 2000 et 3000 interventions pour des crises traumatiques pendant la première semaine de commémoration. Dans sa maison au cœur de la ville de Musanze, Julienne Mukagakwaya, 67 ans, essaie de trouver le courage d'affronter la période de deuil national.
Je ne vais pas souvent aux commémorations. Je vais même jusqu'à éteindre ma radio et ma télévision pour éviter d'entendre les témoignages des autres. afin de ne pas être replongé dans mes souvenirs choquants. Lors de mes traumatismes, je me plongeais dans des scènes d'horreur que j'avais vécues. Je ressentais la même angoisse, la même peur. Je revoyais les interamouais qui me pourchassaient. J'entendais leurs cris. Je me cachais comme je l'avais fait au moment du génocide. Après cela, mon corps lâchait et je m'évanouissais.
Extérieurement, le pays s'est reconstruit très rapidement, mais les cœurs prennent plus de temps. Ça prend du temps de reconstruire la confiance entre les gens qui, hier, étaient meurtriers, les autres étaient victimes. Donc ça prendra du temps, peut-être 2 ou 3 générations, pour que ce soit fini. Et c'est là où les églises devraient jouer un grand rôle.
Antoine Routaïsiré est un pasteur anglican à la retraite, lui-même rescapé du génocide. Il a connu avant 1994 les épisodes de violence qui ont marqué les décennies précédentes au Rwanda.
Les Rwandais particulièrement n'aiment pas mettre dehors leurs sentiments. Même quand je ressens la tristesse, quand tu viens, je mets un masque de joie et d'hospitalité. Mais nous qui vivons dans la communauté chaque jour, nous savons bien qu'il y a des soubassements de tristesse, des soubassements de peur, de méfiance, de peur du lendemain, des sentiments de désespoir et de découragement, principalement durant la période de commémoration. Donc la présence de l'Église pour l'encouragement, pour le soutien est toujours nécessaire.
Donc c'est très intérieur.
C'est très intérieur, oui, parce que l'extérieur, nous avons guéri, mais à l'intérieur, il y a encore des blessures cachées.
Est-ce que vous les considérez inquiétantes, ces blessures cachées ?
Ah, une blessure est toujours une blessure. Donc là, je crois que nous avons un travail à faire. C'est pourquoi même au niveau du gouvernement, on a mis en place un ministère. Il y avait une commission pour l'unité nationale. Maintenant, on a transformé ça en un ministère, ce qui veut dire qu'on... On rend ça permanent pour qu'on continue à aider les gens avec leurs blessures, leurs problèmes, jusqu'à ce que nous voyons que la communauté est bien rétablie.
Bonjour monsieur. Voilà.
Amakuru. Avec d'autres organisations, Interpeace a développé l'approche Mvuran Kuvure. En Kinyarwanda, ça veut dire « tu me soignes, je te soigne ». Une forme de sociothérapie à laquelle a pris part Innocent Gatanazi, un cultivateur du district du Bugesera. Il a passé 8 ans en prison et fait 4 ans de travaux d'intérêt général.
Quand j'étais en prison, mon plus grand cauchemar était de ne jamais être pardonné. Je pensais aux crimes que j'avais commis et j'avais le sentiment que ma place était en prison pour toujours. J'avais peur que les gens que j'avais trahis en tuant leurs proches me tuent aussi s'ils me retrouvaient. Une fois sorti de prison, quand je rencontrais quelqu'un que j'avais trahi, j'avais peur et je me méprisais. Je me demandais pourquoi j'avais fait ce que j'avais fait. Alors j'ai décidé d'attendre et d'espérer qu'il me pardonnerait. Même libre, je rêvais que j'étais en prison. Je rêvais que je tenais une assiette pour aller chercher à manger en prison. Et pourtant, j'étais libre. Voilà pourquoi la sociothérapie m'a été très utile. Parfois, lorsque nous participons à des discussions de groupes communautaires, les jeunes me demandent à quoi je pensais lorsque j'ai commis ces crimes. Mais je leur dis de ne pas poser ce genre de questions. Ce que nous avons vu est mauvais. Ne voyez jamais ce que nous avons vu. Je leur dis qu'ils ne devraient jamais voir de génocide de leur vie. Ne jamais voir des gens chasser les autres comme s'ils avaient volé quelque chose. Parce que ça m'a vraiment détruit. À mon âge, savoir que j'ai tué des gens, ça m'a détruit.
Mmh.
C'est dans le cadre du groupe de parole organisé par Interpeace que Innocent Gatanasi a revu Françoise Mouka-Remera, cultivatrice comme lui, mais dans un village voisin. C'est lui qui a tué sa petite sœur de 5 ans en
1994.
Je ne faisais confiance à personne. J'avais toujours quelque chose qui n'allait pas dans ma tête. J'étais remplie de haine et je voulais tuer ceux qui avaient commis le génocide. Si j'avais eu une arme, je leur aurais tiré dessus. Quand j'ai rencontré Gatanasi, j'étais très effrayée. Je me demandais s'il nous avait invités dans le groupe pour nous assassiner. Je pensais qu'il me tuerait. Après la première, la deuxième, la troisième et quatrième session, j'ai commencé à me calmer et à ne plus avoir peur. Je lui ai demandé « C'est vrai que tu as tué ma sœur ?» Et il a répondu que c'était bien lui qui l'avait tuée. Il m'a tout raconté. Puis il m'a demandé pardon. Lorsqu'il a demandé pardon, je lui ai dit que j'y réfléchirais. Le troisième jour, il a de nouveau demandé pardon. Et nous en avons discuté. Je lui ai dit que j'y avais réfléchi et que j'avais trouvé un chemin pour vivre avec. Je lui ai pardonné parce qu'il avait dit la vérité.
Françoise Mouka-Remera dit que ce n'est plus un fardeau qu'elle porte sur le cœur, mais que la douleur est toujours là. Elle dit éviter les sources de stress, et quand les questions de ses enfants deviennent trop douloureuses, elle se lève et va se coucher. Son mari, rescapé lui aussi, partage une bouteille de bière sur le banc devant la maison avec Innocent Gatanasi, l'homme qui a tué la petite sœur de sa femme il y a 30 ans.
Rwanda, 30 ans après le génocide, penser les blessures invisibles. Lucie Mouillot, correspondante de RFI à Kigali, Amélie Tullet, journaliste au service Afrique de RFI. On se retrouve maintenant. Vous avez donc travaillé ensemble sur les deux grands reportages que l'on écoute aujourd'hui. Encore une fois, on n'est pas dans le récit détaillé de ce qui s'est passé, mais 30 ans après, cette douleur, on l'entend, elle pèse très lourd. Lucie, lorsque vous avez recueilli ces témoignages, comment ne pas faire éponge à la douleur des autres?
Alors c'est difficile évidemment parce que c'est des histoires très violentes à raconter mais aussi à entendre. Et même si on est 30 ans après, pour beaucoup de survivants, c'est comme si ça s'était passé hier. Alors avec Amélie, comme elle le disait plus tôt, on a réfléchi ensemble à comment aborder ces entretiens de la meilleure manière possible pour ne pas rouvrir des blessures encore trop fraîches en demandant à quelqu'un de nous raconter ses pires souvenirs. Du coup, on a décidé de ne pas vraiment poser de questions sur les récits de génocide, comment quelqu'un a survécu, qu'est-ce qui s'est passé pour lui pendant ces 100 jours d'horreur, et on a plutôt réfléchi à des questions actuelles, donc celles de la mémoire, de la transmission dans les familles, de la santé mentale 30 ans après, et de la recherche de la justice.
De votre côté, Amélie, justement, est-ce qu'il y a un témoignage qui vous a particulièrement marqué ?
Oui, tous d'ailleurs, hein. Et je repense à ce qu'a dit Assunta Mugiraneza à l'antenne sur RFI. Elle parle de l'indicible qu'on ne peut pas taire. Et je pensais beaucoup pendant les entretiens à ce côté un peu vertigineux de la souffrance, à son côté aussi viscéral. Souvent, il faut un traducteur pour les entretiens, hein, parce que beaucoup de gens parlent Kinyarwanda et ne parlent pas anglais ou français. Donc pendant que votre interlocutrice ou votre interlocuteur vous répond de façon très posée, avec un ton calme en Kinyarwanda, vous attendez, vous, la traduction. Donc vous ne savez pas exactement ce qui est dit, mais vous ressentez ce qui est dit avec le corps, finalement. Et je me souviens avoir senti à plusieurs reprises, que ce soit en parlant à des anciens détenus qui ont été condamnés pour génocide ou à des rescapés, avoir ressenti un très grand malaise et vraiment être prise à la gorge, avoir, vous savez, les poils qui se hérissent et avoir eu parfois du mal à finir certains entretiens.
Avec, pour vos interlocuteurs, une souffrance donc toujours présente, hein, des questions toujours latentes, obsédantes, j'imagine.
Oui, il y a énormément de questions que les survivants notamment se pose encore. Certains rescapés me disaient chercher encore, par exemple, comment ont été tués un parent ou un frère ou une tante, et surtout chercher encore où est-ce qu'ils ont été enterrés. C'est une question qui est très douloureuse, celle de ne pas avoir vraiment de tombe pour se recueillir. Et certains me disaient aussi, et ça m'a beaucoup touchée, chercher encore des objets de proches disparus, puisque les maisons avaient été pillées pendant le génocide et du coup ils n'avaient plus rien retrouvé, et chercher surtout des photos pour pouvoir montrer à leurs enfants à quoi ressemblaient les grands-parents ou les oncles et tantes qu'ils n'ont jamais pu connaître. Et puis évidemment, il y a aussi les questions de justice et de réconciliation. Dans certains villages, les auteurs du génocide sont encore en fuite, ils n'ont jamais été jugés. Et pour les rescapés, mais aussi pour les anciens génocidaires qui ont été en prison et qui ont été libérés, c'est douloureux de s'imaginer que des auteurs du génocide peuvent vivre une vie tranquille dans un autre pays. Et dans d'autres villages, les anciens génocidaires ont fini leur peine, sont sortis et maintenant il faudrait apprendre à vivre ensemble en communauté.
La question de la justice, hein, Lucie, c'est l'objet de votre second grand reportage avec Amélie. On va l'écouter maintenant, son titre, Rwanda, 30 ans après le génocide, un besoin de justice et de réponse.
Je m'appelle Racine Tarsis, je suis ceinture noire, septième dan de karaté.
Rescapé de l'Institut de sciences agronomiques de Nyanza dans le sud du pays, Tarsis Sinzi a aidé plus d'une centaine de personnes à s'enfuir jusqu'à la frontière avec le Burundi en 1994. Partie civile du procès de l'ex-gendarme Philippe Magnier en France, le survivant a assisté l'année dernière à sa condamnation à perpétuité par la cour d'assises de Paris.
Nous sommes fiers de ce qui se passe. Ça représente du respect pour nos familles. Et puis, comme la justice aide à tout le monde, et puis ça nous donne un peu de la tranquillité parce que on trouve que ce n'est pas négligé. Même après 30 ans, même comme le crime, l'animosité qu'ils ont fait, ça ne s'efface pas. Ça a traîné quand même. Et il ne faut pas ignorer que les pays étrangers ont donné des contributions de la poursuite un peu tard. Ça, il faut le signaler. Mais malgré que c'est tard, je proposais à ce que ça soit continué pour que les témoins ne disparaissent pas avant le jugement.
Une justice lointaine et tardive pour beaucoup de rescapés. En France, le premier procès d'un génocidaire réfugié dans l'Hexagone s'est tenu 20 ans après les faits. Alain Gauthier, président du collectif des partis civils pour le Rwanda.
On a commencé notre travail de recueil de témoignages auprès de rescapés en 1996. Mais c'est à partir de 2001 qu'en créant le collectif des partis civils pour le Rwanda, on s'est vraiment organisé pour pouvoir venir sur place au Rwanda et recueillir les témoignages des tueurs ou des rescapés concernant les personnes qu'on retrouvait en France, réfugiées.
Vous suivez combien d'affaires en ce moment, combien de dossiers ?
Bon, je ne sais pas, mais on en a probablement encore une trentaine, parce qu'il y a eu, je crois, 6 non-lieux, donc des personnes qui ne seront pas jugées si nous n'apportons pas de nouveaux éléments. Deux personnes sont décédées et puis maintenant, avec les dossiers ouverts par le parquet, oui, il doit y avoir au moins 35, presque une quarantaine de dossiers. Depuis 2014, on a eu 7 personnes jugées, mais quand on voit l'ampleur de la tâche, il est clair que nous n'arriverons pas au bout. Un certain nombre de ceux qu'on poursuit en justice ne seront jamais jugés. Alors, certains pour des raisons peut-être politiques, je pense à Agathe Abialimana, mais d'autres parce qu'ils sont âgés et qu'ils seront probablement décédés avant d'être déférés devant la cour d'assises. Donc, comme je le répète, mais tellement souvent, c'est que le retard qui a été pris par la justice en France ne se rattrapera jamais.
Donc c'est quoi l'urgence aujourd'hui pour ces poursuites ?
Alors non seulement les témoins disparaissent, victimes ou tueurs, mais également les mémoires s'effritent. Donc ce sera pour nous de plus en plus difficile de trouver des personnes qui veulent se constituer partie civile.
Je m'appelle Amelda Mukamudodo, j'ai 61 ans. Cet endroit, là où nous nous trouvons, a servi de prison pour enfermer beaucoup de Tutsis qui venaient de Tumba, Nyaruguru et Nyakibanda. Mes enfants, mes proches, mes voisins ont été détenus ici, je le sais. Ceux qui étaient emmenés ici étaient gardés jusqu'à ce qu'ils soient tués. Sosten vivait à côté, il faisait partie de ceux qui ont organisé tout ça. On faisait croire aux gens qu'on les emmenait ici pour les protéger. Je le connais très bien, Sosten. Si je le croisais, je pourrais le reconnaître. C'était un gynécologue à l'hôpital universitaire de Boutaré. Il travaillait à la maternité. C'est là où nous allions pour être soignés. J'ai accouché là-bas. Il était un habitant de Guitoua. Je le connais très bien. Selon moi, ils ont trop tardé en France à l'arrêter. La France ne nous a pas rendu justice en le laissant tranquille si longtemps. Pardonnez-moi de dire cela, mais au moins maintenant, la justice est en marche. Nous vivons maintenant dans un pays en paix. Je suis en vie, mais nous sommes tristes. Beaucoup de gens qui ont commis des atrocités n'ont toujours pas été arrêtés.
Sosten Munyemana a pu exercer comme gynécologue durant de longues années dans le sud-ouest de la France, jusqu'à l'âge de la retraite. Le 20 décembre dernier, à 68 ans, il a été condamné aux assises à 24 années de réclusion criminelle pour son implication dans le génocide. Pendant les débats, Sosten Munyemana a affirmé avoir été un Hutu modéré qui avait tenté de sauver des Tutsis en leur offrant refuge dans ce bâtiment administratif du secteur de Tumba, sur les hauteurs d'une des nombreuses collines qui entourent l'université de Butare, dans le sud du Rwanda.
Je m'appelle Jean-Marie Vianney Gachougui, j'ai 65 ans. Venez, je vais vous montrer. Vous voyez ces gens là-bas, l'homme avec le t-shirt blanc? C'est à ce niveau-là que Sosten vivait. Là où nous nous trouvons, il y avait une barrière un peu au-dessus. Ils contrôlaient les cartes d'identité. Et ceux qui étaient Tutsi étaient emmenés ici. Ils amenaient entre 20 et 30 personnes chaque jour. Et la nuit, ils les prenaient pour les tuer à l'extérieur. Le matin, ils prenaient d'autres gens pour les tuer la nuit. Lui, Sosten, il avait la clé de cet endroit. Il avait le pouvoir d'ouvrir et de fermer. C'est lui qui avait le plus d'autorité ici. C'est attristant et honteux qu'il ait pu vivre une vie normale en France. On a dénoncé cela plein de fois, mais rien n'était fait, tout était repoussé à plus tard. Cependant, maintenant, nous sommes au moins satisfaits qu'il ait été jugé. Mais j'ai entendu qu'en France, les gens voyaient souvent leur peine écourtée. Je veux qu'il purge la totalité de sa peine. J'ai aussi appris qu'il avait fait appel. J'espère vraiment qu'il purgera la totalité de sa peine.
Je m'appelle Marie-Claire, je suis la représentante d'Ibuka pour le secteur de Tumba. Nous avons suivi le procès, mais de loin. Sa condamnation n'est pas à la hauteur des crimes qu'il a commis. Mais le fait qu'il ait été reconnu coupable, ça nous a rendus heureux. Personnellement, je crois qu'il aurait dû être condamné à la perpétuité pour ce qu'il nous a fait. Attendre aussi longtemps son arrestation, ça a été une forme de torture pour nous. Savoir qu'il a pu vivre librement toutes ces années, c'est de la torture. Mais finalement, il a été arrêté et jugé. Donc je suis heureuse de cela. Ce qui me fait mal, c'est qu'il y a des gens qu'il a tués qu'on n'a toujours pas retrouvés. Mais le fait qu'il ait été arrêté, ça veut dire qu'il ne peut plus faire de mal à personne. Cela me soulage qu'il soit entre les mains de la justice.
Il y a ceux que la justice rattrape même tardivement, mais aussi ceux qui sont toujours en fuite. Deux fugitifs sont encore, en 2024, recherchés par la justice internationale.
Sikubwabo, c'est lui qui donnait les ordres ici, autour du rond-point. Il appelait les gens des cellules voisines pour se rassembler ici, au rond-point, et puis il donnait l'ordre d'attaquer pour qu'il ne reste personne.
Fidel Simugomwa marche en direction de l'église catholique de Mubuga. À 59 ans, l'ancien génocidaire, libéré après 7 ans de prison, se souvient bien de ses deux derniers fugitifs, le bourgmestre de la commune Charles Sikubwabo et l'homme d'affaires Riyandi Kayo.
Tous ces gens, on se connaissait même avant le génocide. Sikubwabo était un ancien militaire. Riyandi Kayo était un commerçant d'ici. Lui aussi, je le connaissais. Ce sont les gens qui ont beaucoup participé au génocide. J'ai témoigné contre eux sur les crimes qu'on a commis ensemble. Mort ou vivant, le sang des Tutsis tués va les poursuivre. S'ils étaient des gens de bon cœur, ils devraient retourner au Rwanda pour demander pardon.
Devant l'église catholique, un groupe d'enfants joue au ballon. Sur les murs blancs de l'édifice, plus de signes visibles du massacre commis à l'intérieur, où plusieurs milliers de personnes ont perdu la vie en avril 1994. Un massacre que les fugitifs sont accusés d'avoir aidé à organiser. Vincent Oussabim Foura a perdu plusieurs membres de sa famille.
Même si c'est très tard, ce serait toujours bien de le retrouver ou qu'il se présente devant la justice et qu'il soit puni pour tout ce qu'il a fait. Ce serait un grand échec de voir les 30 ans passer sans justice. Sikubwabo aurait dû être un exemple en tant que dirigeant, mais malheureusement, il a participé au massacre. Mais je voudrais lui dire qu'il n'a pas réussi à tous nous tuer.
Au Rwanda, entre 17 000 et 20 000 génocidaires vont sortir de prison dans les 5 prochaines années. Un défi au regard du profil de ces prisonniers.
Ce n'est pas beaucoup comparé à tous ceux qui sont déjà passés en prison et qui sont sortis au cours des 30 dernières années. Mais ce groupe spécifique, qui va être libéré dans les 4-5 années à venir, est très critique. Car ce sont les détenus qui ont reçu les peines les plus lourdes, ceux qui ont commis les crimes les plus atroces.
Franck Kayitare est le représentant de l'ONG Interpeace au Rwanda.
Des parents qui ont assassiné leurs enfants, des gens qui ont violé, qui ont utilisé le viol comme arme de génocide, des gens qui avaient autorité sur les autres, qui ont mobilisé pour des crimes de masse, des médecins qui ont assassiné leurs patients. Ces gens étaient dans des positions de pouvoir là où ils vivaient. Alors, quand ils vont rentrer chez eux, ils doivent avoir changé. La société doit pouvoir avoir confiance dans le fait qu'ils sont réformés. Ils retournent dans les communautés où ils vont vivre aux côtés des survivants. Donc c'est un programme vaste d'accompagnement qui se concentre sur de multiples aspects.
L'ONG Interpeace a déjà accompagné la sortie de prison de 1700 génocidaires depuis 2021. C'est peu au regard des besoins, mais d'autres organismes s'engagent aussi dans ce chantier. Besoin de justice, besoin de réponse aussi. Rescapés et familles de victimes répètent leur besoin de savoir où sont morts leurs proches et où retrouver leurs corps. 30 ans après le génocide, des charniers sont encore découverts.
Ça, c'est la maison de Hichamonda. Hichamonda, c'était le père de la famille. Hichamonda était génocidaire, il était emprisonné. Il a donné cette parcelle à sa fille comme héritage. Et la fille a construit la maison en 2007 sur des personnes, des corps.
Théodate Simboyintore est le représentant de l'association de rescapés Ibuka pour le district de Houyé. Beaucoup de tristesse dans ses yeux quand il regarde le terrain en pente à nos pieds, une parcelle de terre retournée dans le village de Ngomasis, en contrebas d'une route où en 1994, les tueurs avaient érigé une barrière. Ici, en octobre dernier, sous une maison, des dizaines de corps ont été retrouvés.
Comment on a trouvé les corps ici ? Sa fille, après avoir construit une maison, il a voulu de construire les clôtures. et en creusant pour chercher là où on peut mettre la fondation, les maçons ont trouvé le corps. Les autorités locales interviennent et disent qu'ils vont continuer à chercher le corps.
D'abord une trentaine, puis des dizaines d'autres, sous la cuisine, les toilettes, la maison finalement a été détruite, des corps par centaines, et sous une bananeraie voisine, encore des ossements. Au total, selon Ibuka, plus d'un millier de victimes.
On est sur un tout petit espace là.
Oui, oui.
C'est pas grand. On est sur un terrain de 2-3 pavillons.
Oui, 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 oui. Oui, oui, c'est juste sur cette parcelle.
Est-ce que on sait si cette dame savait qu'il y avait des corps sous sa maison ?
Ah, bien sûr qu'ils savent, parce que quand les maçons disent qu'ils trouvent le corps, ils disent non, ça c'est pas votre affaire, il faut laisser ça.
Qu'est-ce que ça vous fait à vous, monsieur, d'imaginer qu'il y avait une maison construite ici sur un charnier ?
C'est toujours un choc. Quand pendant 30 ans, la personne n'a pas eu le temps de donner l'information là où on peut trouver le corps, et on le retrouve dans cette manière, c'est vraiment choquant. On se pose beaucoup de questions en disant, c'est ce que nous vivons avec les gens qui sont comme ça. Hein? Qui, après 30 ans, les gens ne voudraient pas changer. On n'a pas de réponse exacte. On a toujours le chemin. On doit toujours continuer à éduquer les gens, à sensibiliser les gens, de donner les informations.
Est-ce que vous, vous avez pensé que peut-être il y avait des membres de votre famille ici ?
Moi, personnellement, oui. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
C'est possible ?
C'est possible, c'est possible. C'est possible, parce que moi aussi, je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas eu la chance d'enterrer mes membres de la famille. On ne sait pas.
La propriétaire de la maison et son père sont depuis en prison et seront jugés. Les ossements et les vêtements, une fois exhumés, sont nettoyés dans un bâtiment administratif tout proche.
Donc là, on est dans une salle qui ressemble à une salle de classe.
Oui, c'est une salle de réunion.
Donc sur le sol, qui est en dalles de béton, il y a des grandes bâches en plastique épais qui sont sur le sol. Et les ossements sont posés sur les bâches pour être triés et nettoyés.
Oui, oui.
Il y a une bâche là-bas avec beaucoup de vêtements, oui, avec des couleurs vives.
Oui, oui. C'est ça, sont déjà nettoyés ces vêtements.
Donc là, juste à nos pieds, il y a une bâche avec tout un tas d'ossements et de crânes, encore plein de terre.
Oui, oui.
Et on les nettoie comment ?
On utilise le savon, il y a aussi des produits appropriés. Ces gens sont en train de les nettoyer.
Donc il y a des femmes et des hommes et des jeunes.
Oui, oui.
Entre les deux murs et les fenêtres sont grandes ouvertes. On étend une grande corde bleue pour pouvoir étendre les habits qui vont être mis à sécher et qui seront ensuite déposés au mémorial.
Oui, oui.
Pendant que des jeunes hommes, présentés comme des volontaires, frottent avec des gants de crin les ossements dans de grandes bassines en plastique fluo remplies d'eau mousseuse, Consolé Mukamana, quadragénaire, dépose délicatement les os qui ont perdu leur teinte terreuse.
Ils vont être enterrés dignement, plus personne ne vivra au-dessus d'eux. Ma famille n'est pas d'ici, mais on m'a raconté qu'ils ont été tués ici. C'est très important de retrouver ces corps, les habits surtout. Quand vous avez perdu quelqu'un, si vous vous souvenez du vêtement que cette personne portait, vous le cherchez. Ma mère portait une robe en pagne verte. Chaque fois qu'on trouve des vêtements, je cherche cette robe.
C'est une pagne.
Rwanda, 30 ans après le génocide, un besoin de justice et de réponse. C'était donc, Amélie Tullet, Lucie Mouillot, votre deuxième grand reportage. Amélie, on se dit à l'entendre qu'il est difficile d'envisager une justice et des réponses à la hauteur d'un génocide que j'ai envie de qualifier de proximité.
Oui, c'est vrai que c'est difficile à envisager, mais ce qui revient toujours, c'est qu'une partie de ces besoins exprimés peut être satisfaite. Les disparus, bien sûr, ne reviendront pas à la vie, mais savoir où sont les corps des proches, Lucie en a parlé, où sont tous les corps, hein, on retrouve encore des charniers, on l'a entendu, pour que chacun ait un enterrement digne, c'est un besoin très profond exprimé par les rescapés, et puis que tous ceux qui ont planifié, organisé, mobilisé, pensé ce génocide répondent un jour devant la justice de leur vivant. 30 ans ont passé, pour les rescapés très âgés, savoir que certains de leurs bourreaux n'auront jamais à rendre de compte ou à s'exprimer devant la justice, c'est terrible. Et enfin aussi, j'avais envie de dire, pour les rescapés très âgés, isolés parce que leur famille entière a été décimée, un besoin pressant, c'est de vieillir dans un endroit sécurisé, apaisé, parce qu'ils ont passé 30 ans hantés par leur solitude et leurs souvenirs. Et c'est ce qui m'a marqué dans une des maisons de retraite qui existent au Rwanda, des maisons de retraite qui ont été construites pour les rescapés très âgés. C'est ce besoin d'apaisement, de ne plus vivre avec une angoisse latente.
Ma dernière question, elle sera pour vous, Lucie Mouillot. Vous habitez à Kigali. On l'a dit, 100 jours consacrés à ces commémorations. Au-delà des rendez-vous officiels, est-ce que cette période de souvenir crée une atmosphère particulière au quotidien?
Oui, c'est très particulier, et surtout pendant cette première semaine de commémoration qui se termine ce week-end, puisque même si les Rwandais continuent leur vie et aucun commerce ou entreprise est fermé pendant cette période, il y a certaines règles qui doivent être respectées. Pas de musique, par exemple, dans les bars, dans les restaurants et dans les lieux publics en général. Et à la radio, dans la voiture, on n'entend que des chants de commémoration. Il n'y a pas de match de foot ou d'événements sans lien avec les activités de commémoration qui sont organisées à ce moment-là. Et les entreprises sont, elles, encouragées à laisser leurs employés rentrer dans les villages pour ceux qui le souhaitent, pour pouvoir se recueillir avec leur famille pendant cette semaine, cette première semaine de commémoration. Et donc ces règles vont prendre fin ici ce week-end, mais le recueillement continue, comme on le disait tout à l'heure, pendant encore les 100 jours de commémoration, avec des cérémonies et des activités plus locales dans les villages et dans les familles.
Lucie Mouillot, correspondante de RFI à Kigali, Amélie Tullet, journaliste au service Afrique de RFI. Merci pour cette immersion dans le Rwanda, 30 ans après le génocide. Grand reportage, le supplément du dimanche, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Ludivine Amado et Tiffany Menta pour la réalisation. Prochaine diffusion d'un grand reportage sur l'antenne de RFI, demain, lundi, 19h40, temps universel. Nous serons avec les réfugiés soudanais au Soudan du Sud et le reportage de Gaëlle Lalexe.